Good Morning Business, parole de patron.
On y va, il est 8h45 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité, c'est Nicolas Notbart. Bonjour, vous êtes le directeur général de Vinci Concessions, de Vinci Airport et de Vinci Autoroutes. On a beaucoup de choses à se dire, mais avec votre vision multicasquette sur l'impact aujourd'hui du conflit au Moyen-Orient, vous voyez quand même assez bien quels sont les impacts sur le trafic routier, sur les aéroports. Comment vous regardez aujourd'hui les impacts de la guerre? Est-ce que vous êtes un peu inquiet à la Pouyanée sur les prochains mois? Est-ce que vous voyez des changements de comportement, c'est quoi votre première analyse?
Alors non, on n'est pas inquiet et surtout il faut rassurer les passagers, les automobilistes, parce qu'en ce moment, aujourd'hui, les infrastructures sont disponibles, les vols sont là pour les avions, le kérosène est là, sur nos réseaux d'autoroutes partout dans le monde, il y a de l'essence, il y a aussi, j'y reviendrai, des bornes de recharge électrique. Donc déjà, comme on est le 30 avril et qu'arrive le week-end du 1er mai, le week-end du 8 mai, l'ascension, rassurer. Bah, tous les gens qui ont soit des réservations d'avions, soit qui vont utiliser les réseaux d'autoroutes, il n'y aura aucune pénurie pendant les prochaines semaines sur leur réseau.
Vous êtes présent sur les aéroports dans 14 pays, 4 continents. Il n'y a aucun endroit dans vos aéroports, ceux que vous suivez, où on manque de kérosène aujourd'hui?
Aucun. On travaille avec les autorités de tous ces pays qui suivent ça, évidemment, parce que chaque pays dans le monde, on est au Japon, on est au Chili, vous imaginez bien que chaque pays regarde ses mécanismes d'approvisionnement. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'inquiétude et tous les vols, aucun problème de stock dans les pays de notre
région. Un problème de prix. Aujourd'hui, si on voit des annulations de vols, c'est pour des questions de prix, ce ne sont pas pour des questions de disponibilité.
Vous avez raison, il y a très peu d'annulations de vols aujourd'hui. Quand les compagnies aériennes disent, comme Air France, qu'elle avait prévu 3 à 5 % de croissance de programme et qu'elle va faire 2 à 4, vous imaginez que c'est très faible. Par contre, ils commencent à prévenir quand un vol du mois de juillet était un tout petit peu moins rempli, eh ben, ils l'annulent. C'est ce que font les compagnies chaque année. C'est un tout petit peu plus que d'habitude, mais pas beaucoup.
Vous voyez le débat se rouvrir sur Total Energy, les surprofits, il y a eu la publication des résultats hier. Vous, le sujet qui tourne toujours autour de vous, c'est la question des concessions, des péages, l'idée notamment du Rassemblement National de privatiser les concessions autoroutières et puis récupérer c'est l'inverse, c'est pas de privatiser, c'est de rendre public, récupérer au niveau public les concessions. Comment vous regardez les débats aujourd'hui? Est-ce que vous êtes inquiet par des évolutions politique en France ou pas?
Alors d'abord, le débat s'est beaucoup apaisé. Le gouvernement a choisi d'engager une démarche qui, l'année dernière, s'appelait Ambition France Transport, animée par Dominique Bussereau. Et ça a donné l'objet d'un projet de loi qui est passé au Sénat la semaine dernière et qui a été voté à une écrasante majorité. Je crois 310 voix pour, 19 contre, ce qui est très rare.
Sur la loi transport.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la France, vous le savez, c'est un pays très endetté. Et donc, pour l'avenir, pas pour aujourd'hui, il y a des concessions qui se terminent dans une dizaine d'années, mais pour l'avenir, les politiques, pas les entreprises, ont décidé de s'appuyer sur le péage. Alors pourquoi? Parce que c'est soit le péage ou l'impôt. Et l'impôt, il y en a déjà beaucoup, le déficit est élevé, on ne peut pas endetter plus. Donc les sénateurs ont dit, pour l'avenir, il faut maintenir des concessions à péage. Simplement, ils ont prévu que ces concessions à péage servent aussi à financer le réseau routier national et les réseaux ferroviaires qui sont en moins bon état. Parce que la force de notre modèle autoroutier, tout le monde le reconnaît, c'est que nos autoroutes, elles sont pas mal. Elles sont très bien entretenues, elles sont de qualité. Mais là, l'idée des sénateurs,
c'est d'aller sur le rail.
Voilà.
Mais ça vous va.
Et sur la zone nationale. Ben nous, ce qui est important, c'est que les futurs contrats le disent. Quand on est en compétition, parce qu'on ne gagne jamais une autoroute sans être mis en compétition, eh bien, il faut nous dire à l'avance, voilà, il y aura tel niveau de péage. On fixe jamais les péages nous-mêmes, hein, c'est l'État qui les fixe. Et quelle sera la loi d'évolution? Elle est plus faible que l'inflation. Et à quoi servira l'argent du péage? Alors, d'abord, il doit servir à entretenir les réseaux et les développer. Par exemple, ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'argent dans les années qui viennent. Nous, on a des autoroutes en Méditerranée, en régime cévenol, il y a de plus en plus d'inondations, il y a de plus en plus de feux de forêt, il va falloir les protéger. Ça fait à peu près 27 milliards d'investissements dans les 20 ans. Et une fois qu'on a investi, si une partie du péage peut servir à des routes nationales en priorité et éventuellement du ferroviaire, c'est à l'État d'en décider.
Donc ça vous laisse la marge jusqu'en 2032, donc ça vous laisse un peu de visibilité, quoi. Aujourd'hui, en gros, on touche pas au modèle et ça arrivera plus tard.
Aujourd'hui, les contrats arrivent entre 2032 et 2037. On les applique à la lettre. L'État nous a notifié les travaux qu'on devait faire jusqu'à la fin. Et beaucoup plus important. On a pris l'initiative d'électrifier notre réseau. Je le dis notamment aux automobilistes qui en ce moment achètent massivement des véhicules électriques. La France et Vinci Autoroutes, c'est le réseau le mieux équipé au monde. Il y a 55 bornes de recharge au monde. 55 bornes par 100 km.
Et vous les voyez utiliser là
énormément.
Il y a la queue à la borne ou c'est...
Alors, la queue, non. J'invite d'ailleurs à utiliser les applis pour programmer l'endroit où on s'arrête, hein, l'appli Ulysse, U-L-Y-S.
Mais clairement, il s'est passé quelque chose, vous le voyez dans les...
Il s'est passé quelque chose.
Dans les bornes.
30% des achats de véhicules en France en ce moment sont du pur électrique. Et pour nous, on est passé de 3% à 5% des clients. Mais le plus important, c'est qu'il y a les bornes. Il y en a 2500. Toutes les aires de service sont occupées et il y en a aussi sur les aires de repos. Donc aujourd'hui, ce qui était peut-être le risque pour l'électrification du pays, se dire, tiens, quand je vais faire un très long trajet, est-ce que je suis sûr de trouver une borne ? Moi, je dis, il y a
pas
des
problème.
Bornes et vous pouvez partir tranquille avec vos véhicules électriques.
Mais vous ne m'avez pas répondu sur la question politique. Vous me dites, le débat s'est apaisé, mais on a eu ces discussions, je l'avais encore avec Michel-Edouard Leclerc il y a une grosse demi-heure, sur est-ce qu'il faut parler au Rassemblement National ou pas. Vous, c'est quand même un enjeu business, parce qu'il y a un modèle qu'ils veulent changer pour vous. Est-ce que vous discutez aujourd'hui avec l'ensemble des partis politiques ou vous essayez de pousser un peu vos idées?
Nous, on travaille avec les gouvernements, tous les gouvernements en place.
Pas avec les candidats.
Vinci Concessions est présent dans 25 pays. On travaille avec les gouvernements. Après, quand les candidats, qui d'ailleurs ne sont pas connus aujourd'hui, leurs équipes ont envie d'échanger, tout le monde est à disposition, on est à disposition. Mais aujourd'hui, nous, on fait notre travail dans le cadre des contrats de tous les gouvernements du monde. On est au Japon, on est aux États-Unis, on est au Chili. On travaille pour les gouvernements selon nos contrats. Parce que nous, on vit de contrats de longue durée. Et partout dans le monde, les gouvernements ne remettent pas en cause ces contrats. Parce que ce sont des engagements pris avec des entreprises pour réaliser des travaux pour le compte des États. Et donc, nous, ce qui est important, c'est le respect de nos contrats dans l'avenir.
Dernier point, il nous reste une minute. Vous êtes une activité très capitalistique. Vous avez besoin de capitaux pour investir dans les infrastructures. Quand vous regardez l'OAT à 3,8, on est sur des records. Ça vous inquiète ou pas?
Non, on est une activité de long terme. Et vous l'avez sans doute vu, on est leader mondial privé des aéroports et des autoroutes. On vient d'investir en Inde. Et l'exemple de la confiance dans ce modèle, c'est que des grands pays comme le Brésil ou l'Inde utilisent massivement la concession. Et la dette associée à ces concessions, c'est une dette sans recours qui est logée dans l'infrastructure.
D'accord.
Les prêteurs prêtent pour le trafic routier en Inde. Et vous imaginez bien que le trafic autoroutier en Inde, il va croître, la population augmente. Donc, on est très fiers que ce modèle, qui au départ est né en France, se développe dans des très grands pays du monde qui ont besoin de la concession.
Et quand c'est là, vous financez à un taux bien inférieur que celui de l'OAT, j'imagine.
On se finance à un taux qui est adapté à chaque pays, mais c'est une dette qui est connectée à l'infrastructure.
Avec le projet.
Tout à fait.